CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis accompagné par Sylvain Bersinger, économiste. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on parle d'une entrepreneur au parcours incroyable qui va révolutionner les codes de la beauté et la place des femmes dans la société. On y va.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Cette histoire est celle d'une petite juive des quartiers pauvres de Cracovie qui décida de tout quitter pour se lancer à l'autre bout du monde dans le milieu des cosmétiques. On parle aujourd'hui d'Elena Rubinstein. Alors comme je le disais Sylvain, son histoire commence à Cracovie, le jour de Noël 1870, avec la naissance de Shaja Rubinstein.
Oui, en effet, donc Shaja Rubinstein, je ne suis pas sûr de la prononciation en polonais, mais enfin, peu importe. Donc, est née donc, à Cracovie. Alors, en 1870, on va retenir cette date, même s'il y a un doute sur la date, puisque Elena Rubinstein a eu tendance, disons, à prendre des libertés avec la réalité, et notamment à se rajeunir. Donc, en fait, au fil de sa vie, les différentes indications qu'on a sur sa date de naissance sont changeantes. Donc, bon, on retient 1870, tout en sachant qu'il y a une petite incertitude.
Oui, souvent, il est mentionné 1872, enfin, on ne sait pas.
Voilà, il y a une incertitude.
C'est le jour de Noël, en tout cas.
C'est le jour de Noël, fin du 19e siècle, mais on n'est pas sûr, puisqu'on va le voir à plusieurs reprises, que ce soit sur sa date de naissance ou sur son parcours et sur ses diplômes, elle est prête à prendre des libertés avec la réalité pour se mettre en valeur.
Donc, du coup, elle naît à Cracovie, enfin, juste à côté de Cracovie, dans une sorte de bourgade.
Oui, une sorte de banlieue, le quartier juif, en fait, hein, puisque les juifs vivaient relativement à l'écart du reste de la société. Donc, elle naît dans le quartier juif assez pauvre de Cracovie.
Elle a un parcours scolaire modeste.
Oui, alors elle va à l'école, mais elle n'a jamais fait de grandes études, elle n'a jamais particulièrement brillé par ses études. C'est plus une fonceuse qu'une intellectuelle, disons, de son tempérament.
Et puis c'est une famille nombreuse, elle a beaucoup de sœurs, donc elle aide sa mère, et puis elle aide aussi son père au magasin.
Voilà, donc c'est une famille donc juive assez traditionnaliste, assez portée sur la religion, assez pauvre aussi. Donc le père a une petite boutique qui fait vivre, on va dire, très modestement la famille. Et donc Elena Rubinstein, ou Shaja, comme elle s'appelle encore à cette époque, donc travaille sur son temps libre à la boutique. Elle est d'ailleurs assez efficace. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui a le sens du commerce, le sens des affaires. Et donc c'est l'aînée d'une famille nombreuse. Elle travaille à la maison, elle travaille à la boutique. Dès l'enfance, elle a toujours été très active, en fait.
Donc elle n'a pas le temps pour les écoles, mais ses parents ne voient pas d'un super bon œil qu'elle soit très dynamique comme ça dans les affaires.
Bah en fait, c'est une famille donc juive très conservatrice et aux yeux de ses parents, la place d'une jeune femme, c'est à la maison, de se trouver un mari assez rapidement et de faire des enfants et de les élever. Donc la vision qu'ont ses parents, c'est ni de faire des grandes études, ni de fonder un commerce et de devenir une entrepreneuse. Hein. C'est vraiment une vision traditionnaliste de la femme au foyer qui est en totale contradiction avec ce qu'elle a envie. Et donc il y a, disons, des frictions au sein de la famille sur le devenir, le parcours qu'elle doit avoir.
Et justement, sur le fait de se marier, elle va éconduire tous les garçons qui vont lui présenter.
Oui, alors ses parents aimeraient bien la marier, qu'elle fonde un foyer et qu'elle s'occupe de ses enfants. Elle ne veut absolument pas, donc il y a un peu d'électricité dans l'air à la maison. Et donc elle va partir une première fois de la maison pour aller à Vienne, chez une tante dont le mari a un magasin de fourrure. Donc elle part pour quitter un peu cet environnement familial qui ne lui plaît pas.
C'est aussi en même temps un peu la honte de la famille, donc ils sont contents les parents qu'elle parte à Vienne.
Oui, les parents prennent très mal le fait que leur fille ne suive pas les préceptes assez traditionalistes qu'ils veulent lui inculquer. Elle ne supporte pas que ses parents essayent de lui présenter des hommes pour se marier, donc ils se séparent et disons que ça convient à tout le monde de mettre de la distance entre la fille et les parents.
Mais à Vienne, elle s'en rend compte que c'est pas aussi exactement ce qu'elle recherche, quoi.
Voilà, donc elle travaille beaucoup dans un magasin de fourrure, dans une ambiance assez austère, c'est pas non plus ce qui lui convient. Et donc elle va partir pour l'Australie, le grand voyage.
À 24 ans.
À 24 ans, alors bon, 24 ans,
oui.
on va pas revenir sur le débat, mais voilà, officiellement
à la vingtaine,
ans.
Elle part.
Voilà. Voilà, et donc elle a un oncle au fin fond de l'Australie, dans une petite bourgade au fin fond de l'Australie, et donc elle et ses parents économisent un petit pécule pour payer le billet donc, de bateau à l'époque, hein, bien sûr, et elle part pour l'Australie. Elle quitte tout derrière elle. Elle se fait appeler désormais Elena.
Elle change son nom sur le visa, voilà. Enfin, voilà, sur le passeport.
Sur le passeport. Hein, vraiment, elle tire un trait sur sa vie passée et elle part pour l'Australie tenter sa chance.
Et donc, elle arrive en Australie. Elle va rejoindre cet oncle et rapidement, elle déchante aussi.
Oui, parce que donc cet oncle qu'elle connaît pas, hein, qu'elle a jamais vu, donc habite à Corlen, donc une petite bourgade au fin fond de l'Australie. Il tient une boutique, lui aussi, et en fait, elle travaille comme une bête de somme dans la boutique. Le tonton est pas forcément très sympa, et surtout bien content d'avoir la nièce corvéable à merci. Donc en fait, elle a quitté la Pologne pour se retrouver dans une petite boutique assez austère, au milieu de gens qu'elle connaît pas.
Elle est payée au lance-pierre.
Elle est payée au lance-pierre, elle travaille énormément, et bon, les débuts australiens, disons, sont assez difficiles.
Mais c'est dans ce contexte un peu particulier que va naître dans sa tête une idée.
Oui, alors il va se passer quelque chose de très important, c'est que les femmes australiennes ont la peau burinée par le soleil, et elles, pas du tout. Alors, son secret, c'est une crème de beauté que faisait sa mère, qui est un peu une tradition, une recette de famille qu'on se transmet de génération en génération, donc une sorte de crème hydratante, disons. On est un peu incertain sur la composition exacte.
Mais une recette de grand-mère,
voilà,
transmettait.
Une crème hydratante. Et elle, en venant en Australie, en a emporté quelques pots dans ses valises. Et cette crème lui permet de garder une peau saine et non agressée par le soleil et le vent, le climat australien.
Une crème efficace, alors ?
Une crème efficace, visiblement. Il semblerait que ce soit vraiment une crème efficace.
Et donc, du coup, son teint fait un peu envier les femmes de la région.
Voilà, et donc petit à petit, elle va nouer des contacts avec ces femmes qui sont les clientes dans la boutique. Elles vont parler un petit peu de crème et de cosmétiques. Et elle va commencer, en fait, à vendre quelques petits pots, quelques échantillons de cette fameuse crème. Donc c'est un peu le début, un peu par hasard, en fait, c'était absolument pas prévu. Un peu par hasard, c'est son début dans les cosmétiques. Avec le problème qui est que les pots de crème, elle en a quelques-uns qu'elle avait mis dans sa valise, mais
elle
très peu.
Pas beaucoup, oui.
Mais très peu. Et elle n'a pas la recette.
C'est sa mère qui l'a, la recette.
C'est à la fois la recette et le savoir-faire, c'est sa mère qui l'a. Elle n'a jamais fait cette crème, elle ne s'était jamais intéressée à cette crème jusque-là. Donc sa mère est à l'autre bout du monde. Hein. On est à la fin du 19e siècle, il n'y a pas encore Internet et Skype pour s'expliquer les recettes. Donc elle écrit à sa mère « Envoie-moi des pots et donne-moi la recette ». Donc on imagine le courrier qui met des mois... entre l'Australie et Cracovie.
Et elle, entre-temps, elle essaye de retrouver la recette, en fait, de la crème.
Voilà, donc elle commence dans son coin, sur son temps libre, à essayer de faire des mixtures pour essayer de retrouver la crème. Mais bon, ça marche pas très bien. C'est une crème qu'elle a jamais faite. Elle connaît mal la recette. Et alors, malgré la lenteur du courrier, elle reçoit donc d'autres échantillons de sa mère. Elle reçoit la recette. Donc elle a la recette écrite, mais encore faut-il savoir, avoir le savoir-faire, le doigté pour obtenir le bon produit. Et bon, par un processus successif d'essais-erreurs, elle se rapproche petit à petit de la fameuse recette, de cette fameuse crème de beauté que faisait sa mère.
Entre-temps, ça va plus trop avec son oncle, donc elle décide de changer de métier, puisqu'elle fait ça à côté de son métier, hein, de développer la crème. Donc du coup, elle va aller travailler chez un pharmacien.
Oui, alors elle trouve un autre emploi de vendeuse toujours chez un pharmacien de cette petite ville. Elle se dit, bah, comme ça, vu que c'est un pharmacien, je pourrais peut-être bénéficier de ses connaissances, de son savoir-faire pour développer ma crème.
De son atelier.
De son atelier, etc. Alors en fait, c'est un pharmacien qui est un peu comme son oncle, c'est-à-dire qu'il est bien content d'avoir trouvé une bête de somme, corvéable à merci et qu'on paye au lance-pierre. Donc non, elle n'a pas trop de chance, effectivement. Mais toujours sur son temps libre, elle parvient à arracher quelques petites minutes, quelques heures pour développer sa crème. Et ce qui va... disons tout faire basculer, en tout cas beaucoup de choses, c'est elle s'est souvenue que sur le bateau, quand elle est arrivée, donc c'était des traversées qui duraient plusieurs semaines, elle avait rencontré une Australienne assez aisée qui vit à Brisbane, avec qui elle avait gardé le contact, elle avait gardé son adresse. Et donc elle va reprendre contact avec cette femme, et c'est vraiment cette passagère qu'elle avait rencontrée par hasard qui va l'introduire petit à petit dans la bonne société australienne, ce qui va lui permettre ensuite de développer son affaire.
Elle déménage donc à Brisbane pour la rejoindre.
Voilà, elle déménage à Brisbane. Elle fait divers petits métiers, notamment nounou, quoi. Enfin, elle garde les enfants. Ça lui plaît pas vraiment, mais bon, il faut bien qu'elle vive. Et surtout, elle commence à faire des contacts, disons, dans la bonne société, à faire connaître sa crème aussi. Elle distribue des échantillons. Elle commence, on va dire, à un peu maquiller son CV. Donc, elle s'invente des études prestigieuses de chimie à Vienne, etc., totalement imaginaire. Tout au long de sa vie, elle sera très, disons, très inventive sur son CV et son parcours.
Mais c'est vraiment aussi pour embellir un peu le bienfait de sa crème, tout ça. Même s'il est effectif, il fallait un peu faire du marketing autour du produit.
Oui, bien sûr. Si elle avait dit c'est la crème, c'est une recette de famille des fins fonds des faubourgs de Cracovie, ça aurait pas été très vendeur. Si elle dit c'est une crème que j'ai développée dans les grandes universités de Vienne avec des chimistes renommés, c'est tout de suite plus vendeur. Donc bien sûr, c'est une prise de liberté avec la réalité qui a pour but de promouvoir sa crème, bien sûr.
Et changement encore de vie, elle va déménager à Melbourne.
Voilà, donc elle se rapproche de la grande ville, à Melbourne. Donc au début, pour vivre, elle prend un emploi de serveuse hein, pour gagner juste de quoi manger et se loger. Et petit à petit, donc là, elle a vraiment dans l'idée de développer le commerce de sa crème. Hein, c'est vraiment son objectif. Son emploi de serveuse, c'est juste un emploi alimentaire. Donc elle rencontre plusieurs personnes, plusieurs messieurs, certains pharmaciens, d'autres banquiers, etc. Bon, on ne sait pas trop les relations qu'elle a eues avec eux, mais enfin, qui vont lui ouvrir des portes aussi pour prendre des contacts, pour se lancer tout simplement.
Elle est très forte en relationnel. Depuis le début, elle arrive à faire les bonnes rencontres et au moins à se servir de son petit carnet d'adresses.
Voilà, elle a tout de suite compris l'importance du carnet d'adresses et de le développer et d'utiliser en fait, hein, les connaissances des gens qu'elle rencontre. Et donc petit à petit, elle commence une activité de vente en porte-à-porte de sa crème. Donc ça marche assez bien. Les débuts sont assez prometteurs et elle va avoir l'idée donc d'ouvrir un salon de beauté donc à Melbourne, et elle va l'ouvrir en 1902.
Et en 1902, il y a un petit coup de pouce inattendu pour elle.
Voilà, donc 1902, c'est aussi l'année où les Australiennes obtiennent le droit de vote. Donc par comparaison, en France, c'est 1945. Hein, c'est après
bien avant.
Et donc en Australie, en 1902, les femmes ont le droit de vote, et il y a un peu une petite révolution féministe hein, dans la société australienne, qui fait que les femmes de plus en plus vont se maquiller, vont prendre soin de leur beauté. Il faut se rappeler qu'à cette époque, hein, le maquillage c'est réservé aux prostituées et aux actrices. Hein. C'est très mal vu pour des femmes disons de la bourgeoisie de se maquiller et de fréquenter des instituts de beauté. Mais elle arrive en Australie juste au moment où il y a cette révolution féministe qui fait que le maquillage est de plus en plus accepté dans la société.
Et donc, grâce à ce premier institut de beauté, sa crème, elle commence à avoir du succès à Melbourne.
Oui, alors la crème est l'ensemble du service qui va avec. Hein. Donc c'est un institut de beauté où à la fois il y a cette fameuse crème, et d'autres produits de beauté, mais il y a un ensemble de soins, du corps, de massage, etc. Elle vend bien sûr sa crème, qui est son produit phare, mais elle vend vraiment tout un service de beauté autour de cette crème. Et effectivement, ça marche très bien. Le premier institut de beauté fonctionne très bien. Alors, elle en ouvre un plus grand. Elle en ouvre ensuite un autre à Sydney. Elle en ouvre un autre ensuite en Nouvelle-Zélande.
Et ça, très rapidement, c'est en quelques années.
En quelques années, ça prend vraiment très très vite. Et ensuite, elle va aller à Londres. Donc elle va s'attaquer à un nouveau marché, au marché londonien, qui est un marché assez difficile, puisque la mentalité anglaise, dans la bonne société, puisqu'elle vise vraiment un public haut de gamme, le fait d'être une juive australo-polonaise qui connaît personne dans la bonne société londonienne, c'est pas forcément facile pour elle
C'est pas aussi simple que ce que cela a pu être en Australie.
Oui, disons qu'en Australie, les barrières sociales étaient moins importantes. C'est un peu l'esprit western. C'est un pays nouveau, hein, comme les États-Unis. C'est un pays où les opportunités sont plus faciles pour les immigrés. À Londres, c'est un peu différent, donc c'est un peu plus difficile pour elle de s'intégrer dans la bonne société londonienne. Mais bon, elle est déterminée, elle a un peu de moyens financiers, ce qui n'était pas le cas du tout au début quand elle a commencé à ouvrir son premier institut.
Elle a rencontré son mari aussi entre-temps ?
Elle a rencontré son mari, effectivement, en Australie. Un mariage qui sera pas forcément un mariage heureux, puisque elle, dans sa vie, il y a le boulot, l'entreprise, le succès et point final. Hein. Donc elle a eu deux enfants, donc avec son mari, ils se sont séparés quelques décennies après leur mariage. Elle a pas du tout le caractère de la mère de famille qui fait des gâteaux et des crêpes pour les enfants et pour la fête de l'école. Hein. C'est pas du tout ça.
Mais pourtant, elle apporte quand même un certain intérêt à la famille. On fait une petite aparté, c'est parce qu'elle va faire venir ses sœurs pour travailler avec elle.
Oui, alors quand il s'agit de travailler de l'entreprise, oui, elle a l'esprit familial, effectivement. Il y a ses sœurs, ses cousines qui la rejoignent dans l'entreprise. Donc la direction de l'entreprise a un caractère un peu familial, mais pour ce qui est de sa vie personnelle, elle la met vraiment de côté. C'est vraiment un bourreau de travail, en fait. Hein. C'est le succès de son entreprise passe avant tout, et c'est toute sa vie, en fait, le travail dans son entreprise.
Donc l'arrivée à Londres est pas simple, mais rapidement, le succès arrive. Et des nouveaux produits aussi.
Oui, en fait, elle applique les recettes qui avaient réussi en Australie. Donc, un positionnement haut de gamme, sa crème qui est visiblement efficace puisqu'elle marche très bien. Elle s'installe donc dans les beaux quartiers. Elle vise vraiment le haut de gamme, c'est vraiment un parti pris délibéré. Elle s'installe dans les beaux quartiers. Donc, à Londres, un peu comme en Australie, on a dit qu'en Australie, elle arrive au moment où les femmes ont le droit de vote, elle arrive en Angleterre en plein pendant le mouvement des suffragettes. Donc, le mouvement des suffragettes, c'est ce mouvement féministe qui revendique donc le droit de vote des femmes, hein, qui arrivera en Angleterre en 1918. Et donc, la société anglaise est en train de changer. Il faut voir que quand elle arrive, il y a encore des instituts de beauté où les dames entrent et sortent par une petite porte dérobée pour pas se faire voir, parce que c'est mal vu. Mais la société anglaise est en train de changer. Donc là encore, elle arrive...
A le don d'arriver au bon moment, quoi.
Oui, elle a un peu de chance. Disons qu'elle a un peu de chance dans le moment où elle lance son affaire.
Après avoir réussi son aventure à Londres, elle décide d'envahir Paris.
Voilà, donc quelques années après, on est au début du XXe siècle, hein, donc elle a ouvert un premier institut à Londres qui marche bien. Elle refait la même chose à Paris, donc elle se positionne dans les beaux quartiers, elle ouvre un premier institut dans les beaux quartiers, elle ouvre une usine à Saint-Cloud également. Et donc en fait, elle réplique la stratégie qui a fonctionné d'abord à Melbourne et Sydney, ensuite à Londres, elle la réplique à Paris, et ça marche très bien aussi. Donc un positionnement sur les salons de beauté haut de gamme, des produits haut de gamme, un ensemble de soins en fait, hein. Comme on l'a dit, c'est pas juste un produit, c'est vraiment un ensemble de soins, et elle commence en fait elle-même à être connue aussi. Petit à petit, elle devient un peu l'argument de ses produits. Donc, comme on l'a dit, elle s'invente pour la circonstance des diplômes et des expériences prestigieuses. Et elle devient un peu l'emblème de son produit et des soins qu'elle propose.
Elle apparaît dans les publicités.
Voilà. Les produits portent son nom. Elle est vraiment l'image de son entreprise auprès des clientes et son propre argument commercial, disons.
Après cette réussite à Paris, elle a encore un peu, j'ai envie de dire, le nez fin, puisqu'en 1914, elle décide de partir à New York.
Voilà, donc au début de la Première Guerre mondiale, le commerce à Paris, en Europe d'une manière générale, ralentit. L'ambiance est, disons, un peu morose, hein, c'est le début de la guerre. Et donc elle part à New York en 1914 et elle réplique à nouveau sa stratégie, toujours la même, positionnement dans les beaux quartiers, positionnement haut de gamme. Et ça marche aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a déjà à New York la place qu'elle cherche à occuper, le créneau qu'elle cherche à occuper, qui est déjà pris.
Il y a une concurrente.
Voilà, il y a sa grande concurrente. Hein, les deux vont connaître des décennies de lutte assez féroces.
C'est un duel célèbre.
C'est un duel, voilà. Donc sa concurrente, c'est Elizabeth Arden, qui, par certains côtés, lui ressemble. C'est-à-dire qu'elle, elle est née au Canada, d'une famille, elle aussi, pauvre. Et elle a aussi gravi des échelons à la force du poignet, monté son entreprise de cosmétiques et d'instituts à la force du poignet. La grosse différence, c'est que Elena Rubinstein est juive. À l'époque, hein, l'antisémitisme est encore très présent. Hein. On a cette anecdote où elle veut acheter un appartement à New York. On lui dit non, dans cet immeuble, c'est interdit aux juifs. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle rachète tout l'immeuble. mais il y a encore l'antisémitisme qui est très présent et qui peut être un frein au développement de ses affaires, alors qu'Elisabeth Arden, elle est protestante et n'a pas ce genre de problème-là.
Pour réussir un peu à contrer sa concurrente, elle va se diversifier, elle va créer notamment une école de beauté.
Oui, alors elle innove, c'est en fait depuis le début, hein, elle cherche à innover, mais elle renforce ça, là, elle a de plus en plus de moyens financiers, donc elle développe de nouveaux produits, elle développe une école de beauté. En fait, elle essaie vraiment de pas juste vendre un produit, mais aussi la manière de l'appliquer, en fait un ensemble de solutions beauté, disons, au-delà d'un simple produit.
Donc ses affaires se portent bien aux États-Unis aussi, mais il arrive en 1929 le crash boursier. Mais c'est pas obligatoirement une mauvaise chose pour elle.
Oui, alors très paradoxalement, le krach boursier de 29 va formidablement l'enrichir, puisque
c'est fou ça.
Voilà, c'est totalement inattendu. Mais en fait, quelques années avant le crack, elle avait vendu une partie de son entreprise, la branche américaine de son entreprise, à la célèbre banque d'affaires Lehman Brothers. Donc je dis célèbre parce que c'est sa faillite, la faillite de cette banque en 2008 qui a déclenché la crise financière dite des subprimes. Mais bon, à l'époque, c'est une banque prospère. Donc il rachète les parts de la branche américaine de l'entreprise Rubinstein. Donc juste avant le crack, elle l'achète à $70 et arrive le crack, les cours s'effondrent jusqu'à $20 et donc elle, Elena, va racheter ses propres parts, les parts qu'elle avait vendues $70, elle va les racheter $20 quelques années plus tard. Donc en fait, grâce au crack, elle a réalisé une opération absolument mirobolante, c'était absolument pas prévu, hein, mais le crack pour elle arrive exactement au bon moment.
En plus, elle n'était pas en phase avec ce que voulait faire, avec ce que faisait Lehman avec sa société.
Oui, elle pensait que Lehman c'était des banquiers qui n'avaient rien compris à la beauté féminine, mais bon, elle avait vendu son entreprise, la branche américaine, donc elle pouvait râler, mais en fait elle pouvait pas faire grand chose de plus. Mais là, du coup, elle va pouvoir reprendre son entreprise, la racheter à prix cassé, et effectivement la développer selon sa propre vision des choses. Et il faut dire que sa vision du commerce et du marché de la beauté féminine était sûrement bien plus pertinente que celle des banquiers de Lehman Brothers.
Et donc la société survit à ce crash et elle poursuit son expansion.
Voilà, la société poursuit son expansion, un peu ralentie par la Deuxième Guerre mondiale, puisque on se doute bien que c'est pas le moment où on achète le plus de produits de beauté. Alors elle vend par exemple quelques crèmes de maquillage et de camouflage pour l'armée, mais bon, c'est des marchés assez secondaires. Donc malgré tout, elle parvient à surmonter le choc de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a notamment une théorie commerciale qu'on appelle lipstick theory, la théorie du rouge à lèvres, qui est une théorie contestée, mais en gros l'idée c'est qu'en période de crise, les ventes de maquillage et de rouge à lèvres se portent plutôt bien, puisque les femmes n'ont plus les moyens d'acheter une belle robe ou des bijoux, et se consolent, disons, en achetant un tube de rouge à lèvres. Et donc, selon cette théorie, ça expliquerait que ces ventes se soient pas trop mal portées pendant la guerre, et qu'en fait, elle a assez bien surmonté ce passage difficile pour le commerce de 39-45.
Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de démocratisation un peu des crèmes, du bien-être, et donc du coup, la société se porte encore mieux.
Voilà, après la Seconde Guerre mondiale, donc elle va s'étendre à l'ensemble du monde. Hein. Elle a été présente jusque-là, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, France et États-Unis. Donc là, elle s'étend dans le monde entier, dans la plupart des pays. Ça devient vraiment un empire de la beauté. Le commerce évolue un peu, c'est-à-dire que la branche salon perd de son importance et d'ailleurs fait des pertes. Mais en fait, la branche salon, même si elle fait des pertes, devient en fait un argument commercial pour vendre des crèmes dans les magasins. C'est un peu comme la haute couture, hein, les défilés font des pertes, mais ça permet de vendre des parfums à l'effigie de la marque. Donc c'est un peu cette stratégie-là qu'elle adopte, et c'est un succès. Hein, l'entreprise va croître pendant les décennies d'après-guerre de manière très importante.
Elle pourrait penser à la retraite, mais non, elle ne s'arrête pas, et elle continue à travailler.
Oui, alors comme on l'a dit, c'est vraiment un bourreau de travail et elle va continuer à travailler, à diriger son entreprise d'une main de fer jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en 1965, donc elle a 95 ans, et jusqu'à sa mort, elle dirige son entreprise.
Et c'est une entreprise qui existe encore et qui a encore cette image de prestige.
Oui, voilà, donc l'entreprise a été un temps rachetée par Colgate-Palmolive, ensuite par L'Oréal, et c'est toujours une filiale de L'Oréal, une entreprise qui existe toujours et effectivement qui est toujours associée plutôt à un créneau haut de gamme dans les cosmétiques.
C'est donc une véritable épopée qu'a vécue Elena Rubinstein, cette petite juive de Cracovie qui a connu donc un destin incroyable grâce à son talent des affaires, mais aussi à sa détermination qui a révolutionné le monde des cosmétiques et la beauté féminine. Merci Sylvain.
Merci à toi Mickaël.
Je rappelle Sylvain qu'on peut retrouver d'autres portraits et d'histoires passionnantes dans ta série de livres destinés aux entrepreneurs qui paraissent donc chez Henrik B. Édition. Et évidemment, on se retrouve tous les deux, tous les 15 jours, en podcast, sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. À bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.